Moteur, moteur, moteur.
Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans Un soir un film, votre émission cinéma sur Radio MDM. Je suis Fred, votre hôte pour cette demi-heure, et pour m'accompagner aujourd'hui à la technique, nous avons Arnaud. 25%, c'est le pourcentage de films réalisés par des femmes en France en 2023, selon le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Je m'excuse par avance de ne pas pouvoir vous donner les chiffres de 2024, mais malheureusement, il est encore un peu tôt pour l'Observatoire de l'égalité hommes-femmes du dit CNC de nous les donner. Et nous sommes encore bien loin de cette égalité tant espérée. Aujourd'hui, le combat féministe est, fort heureusement, au premier plan, que ce soit politique, social, économique, mais aussi artistique. Et pourtant, il paraît aberrant que seulement un quart des films réalisés en France soient l'œuvre de femmes. Ainsi, j'ai donc décidé de vous parler de 4 films réalisés par des femmes, afin de mettre en lumière le travail formidable de ces dernières. Avec une petite spécificité cependant, 2 de ces films parlent du féminin, et les 2 autres du masculin. Je trouvais intéressant d'avoir la parité dans les sujets traités, mais d'avoir quand même 100% de réalisatrices dans cette émission. Et sans plus tarder, le premier film de notre sélection, Bande de filles. Film réalisé en 2014 par l'immense réalisatrice française Céline Sciamma, qui a entre autres réalisé en 2019 le chef-d'œuvre qui est Portrait de la jeune fille en feu, que je vous invite d'ailleurs grandement à regarder. Bande de filles donc, nous raconte l'histoire de Mariem, jouée par Kharidja Touré, une adolescente noire de 16 ans vivant en banlieue parisienne. Seconde d'une famille monoparentale, cette dernière voit peu sa mère, qui travaille de nuit en tant que femme de ménage, et doit s'occuper de ses 2 sœurs cadettes tout en étant victime d'un frère aîné violent et possessif, agissant comme une sorte de père de substitution.
Pousse-toi. T'éteins pas le téléphone. Tu fais jamais ça, tu sais. Ça m'amuse, franchement. De devoir te dire des trucs comme ça. Réfléchis un peu. Oui.
Suite à un échec scolaire, elle fait la rencontre de 3 filles. Philly, jouée par Marietou Touré, Adiatou, jouée par Lindsay Karamou, et Lady, interprétée par Assa Sylla. Mariem se met rapidement à admirer ses nouvelles connaissances. En effet, ces dernières apparaissent sûres d'elles et émancipées, se faisant même respecter par les garçons du quartier, jusque-là alors montrées comme une sorte de menace par Sciamma. Cheveux longs et lisses, vêtements moulants et bijoux clinquants, les filles sont ultra féminisées tout en ayant une attitude bagarreuse et audacieuse. À travers ce paradoxe, Sciamma nous montre que ces jeunes adolescentes ont réussi à gagner en caractère car elles sont objets de désir pour les garçons, mais au moindre faux pas, ces dernières, issues d'une société ultra-patriarcale, leur rappellent très bien leur place et qu'elles feraient mieux de cesser de jouer au mec, comme ici, après que Lady ait perdu une bagarre contre une autre fille d'un autre quartier.
Wesh Abdel !
Wesh Abdel ! C'est quoi ce bordel là ?
Quel bordel ?
T'as pas vu la vidéo ?
Bien sûr que je l'ai vue ! Abuse !
À poil,
on a tourné la vidéo, t'es sérieux ?
On a tous vu la vidéo. On a tout vu.
T'as 4 pattes en plus.
4 pattes, tu tiens.
Mais écoute, t'as 4 pattes en soutien-gorge,
wesh. Sol.
Quand tu parlais beaucoup, tu disais je vais niquer. Celle-là, t'as niqué à la fin.
Non.
Je viens pas au nord au quartier, c'est plus de bouffon.
Tu fais la Warriors là, dans le quartier là.
Tiens.
En fait, t'es une vraie meuf. T'es pas aussi chouette que tu le prétendais. Espèce de meuf. T'as vu qu'est-ce que tu méritais, hein?
Cassez un peu de cheveux, vas-y, arrache-toi!
Bouge là! Vas-y, bouge ta gueule! Bouge là!
Dans ce film, Sciamma nous montre vraiment ses difficultés pour Mariem, renommée Vic, comme Victoire par ses amis, de s'émanciper et de passer outre le cadre de sa vie de femme, refusant d'être la gentille femme au foyer s'occupant des enfants. Nous la voyons se chercher et grandir à travers 3 ellipses, servant à découper le film et montrer son passage à l'âge adulte et l'acceptation de sa condition féminine. Je vous encourage vivement à regarder cet excellent film que vous pourrez trouver en VOD sur Canal+, et je vous laisse pour notre petite pause musicale avec une chanson accompagnant un moment clé du développement de ses filles, Diamonds de Rihanna.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. See, I chose to be happy. You and I, you and I. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh yeah. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
C'était Diamonds de Rihanna. Et vous êtes toujours dans Un soir un film sur Radio MDM. On continue notre sélection de films réalisés par les femmes avec un chef-d'œuvre, Old Joy, film réalisé en 2006 par l'excellente réalisatrice américaine Kaylee Rickard. Je vous avais déjà parlé d'elle dans la toute première émission qui avait pour sujet le western au cinéma. Et je vous encourage vivement, une fois de plus, à vous pencher sur sa filmographie. Je pense que c'est l'une des réalisatrices les plus talentueuses du début de notre siècle, hommes et femmes confondus. Dans Old Joy, nous suivons Mark, joué par Daniel London, un trentenaire qui s'apprête à devenir papa pour la première fois, qui un matin reçoit un coup de fil d'un de ses anciens amis proches, Kurt, joué par Will Oldman, l'invitant à faire une randonnée et camper près d'une source chaude dans les magnifiques forêts d'Oregon, terrain de jeu plébiscité par Kaylee Rickard. Cependant, lors de ce road trip et de cette randonnée, les deux vieux amis se rendent mutuellement compte, et sans jamais se le dire, qu'ils ne sont plus vraiment amis, qu'ils ont changé. En effet, Mark est montré comme quelqu'un de plutôt cartésien, écoutant des émissions politiques à la radio, cherchant à améliorer la vie de son quartier. Alors que Kurt, adulte un peu paumé, cherchant sa place dans le monde, se tourne plus vers des réponses mystiques, allant dans des retraites spirituelles où personne ne parle pendant des jours. Nous pouvons voir le mépris que l'un et l'autre se portent à travers leurs regards, leur façon de se tenir l'un à côté de l'autre, et pourtant, en souvenir de leur amitié passée, rien n'est dit pour vexer l'autre. L'amitié est partie, mais il reste encore de l'amour. Apportant ainsi une grande et magnifique mélancolie au récit, comme le dit Kurt vers la fin du film.
It's okay. You're okay. Sorrow is nothing but worn out joy.
Le chagrin n'est rien d'autre qu'une vieille joie. D'autant plus que les deux cherchent quand même un peu à se rabibocher. Rickard allant jusqu'à explorer la dimension homoérotique de l'amitié entre hommes. Et personnellement, je pense que seule une femme arrive à montrer ça avec tant de douceur. Amitié, mélancolie et douceur, c'est le menu de ce chef-d'œuvre qu'est Old Joy. Le film n'est malheureusement pas disponible à la médiathèque du Marsan, mais je vous encourage vivement à le regarder. Et je vous laisse avec Living Home de Yola Tengo pour notre seconde pause musicale. Thank you. C'était Living Home de Yola Tengo et vous êtes encore dans Un soir un film sur Radio MDM. En 2022, sortait le premier long métrage de fiction de la réalisatrice de documentaire Alice Diop, Saint-Omer. Film librement inspiré du procès de Fabienne Cabou, une femme noire accusée d'avoir noyé sa fille de 15 mois à Berck-sur-Mer et dont le procès a eu lieu, vous l'aurez deviné, à Saint-Omer. Dans ce film, nous suivons Rama, interprétée par Kaiji Kagame, une professeure de littérature et écrivaine à succès, ayant choisi d'écrire son prochain livre sur une Sénégalaise accusée d'infanticide sur sa fille de 15 mois, Laurence Colly, magnifiquement interprétée par Guslaji Malanda. Et pour ce faire, Rama assiste à son procès aux Assises dans la ville de Saint-Omer. Nous suivons ainsi le procès de cette jeune femme brillante, étudiante en philosophie. Et très vite, Rama remarque à quel point les deux se ressemblent. Toutes les deux sont des femmes noires lettrées. Les deux ont très peu d'affinités avec leur mère, et pour couronner le tout, Rama attend un enfant en montrant très peu de désir d'être mère et craignant de devenir comme Laurence. Plus ce film de procès avance, plus Alice Diop nous montre que Laurence n'est finalement pas jugée pour infanticide, qui agit ici comme une sorte de prétexte, mais plus pour avoir essayé de s'émanciper de sa condition de femme noire. En effet, lors de ce procès, la vie entière de Laurence est mise à nu, et elle doit expliquer tous ses choix, la cour prétextant vouloir comprendre une chose qui nous paraît incompréhensible, l'infanticide d'une mère sur son propre enfant. Et pourtant, nous la voyons justifier ses choix de vie. Pourquoi avoir choisi la philosophie plutôt que le droit en cursus scolaire? Pourquoi s'être mise en couple avec un homme blanc plus âgé qu'elle? Etc, etc. Subissant un racisme absolument insupportable de la part des gens plutôt élevés socialement, comme par exemple cette conversation téléphonique entre Rama et son éditeur.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Rama.
Excuse-moi, j'ai pas eu le temps de te rappeler, je viens juste de rentrer.
T'inquiète pas, c'est pas grave. Alors, ce procès, comment tu la trouves? Elle a l'air vraiment fascinante, non? La presse dit qu'elle s'exprime dans un français remarquable.
Elle s'exprime comme une femme éduquée, c'est tout?
Oui, c'est vrai, tu as raison.
Ou bien ses propos dégueulasses, et je maintiens ce mot, d'une de ses anciennes professeures de philosophie.
Madame Colly, vous avez prétendu travailler à une thèse portant sur le philosophe Wittgenstein. Pourquoi Wittgenstein?
Je ne sais pas.
Madame Jobard, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce choix?
C'est une fabulatrice. Ce qui est intéressant avec Wittgenstein, c'est qu'il est quand même un philosophe du langage. Mais bon, je pense que ce choix est un masque. Elle se réfugie derrière une philosophie qui ne parle pas d'elle.
Qu'est-ce que vous entendez par une philosophie qui ne parle pas d'elle?
C'est quand même étrange qu'une femme africaine s'intéresse à un philosophe autrichien du début du XXe siècle. Elle aurait tout aussi bien pu choisir un sujet plus proche de sa culture.
Alice Diop nous montre toute la violence d'un système se disant égalitaire et juste envers les femmes, ayant le culot de vouloir dépasser leurs propres conditions d'existence, cherchant à faire passer pour folle Laurence, un peu comme nous accusions au Moyen-Âge de sorcières ou bien d'hystériques, les femmes émancipées, et qui, pour la société actuelle, porteraient encore l'ADN du monstre et de la culpabilité, comme le dit magnifiquement bien l'avocate de Laurence dans son réquisitoire final face à la caméra.
Je voudrais terminer, mesdames et messieurs les jurés, en vous parlant d'une chose qui m'a particulièrement touchée. Laurence Colly a appris à être mère sur Internet. Elle a essayé de faire ce qu'il fallait. Elle a tenté de lutter, de tenir, mais elle a perdu. Il n'y avait personne pour l'aider. Personne ne pouvait comprendre. Et on ne la comprend toujours pas, Laurence Colly. On voudrait vous faire croire qu'elle est menteuse, arrogante, manipulatrice, un monstre en somme. Mais ce matin même, Laurence m'a raconté un rêve dans lequel Élise était avec elle en prison. Quand j'ouvrais la porte de sa cellule, Élise courait se réfugier sous ma robe d'avocate. Laurence sait que sa fille sera toujours avec elle. Elle est en elle. Ce que je vous raconte là, ce n'est pas de la poésie, c'est de la science. On sait que lors d'une grossesse, les cellules et l'ADN maternel migrent vers le fœtus. Ce que l'on sait moins, c'est que l'échange se fait dans les deux sens. Les cellules de l'enfant fuient aussi vers les organes de la mère. Elles se logent dans tout son corps, de son cerveau jusqu'aux orteils. Même après un accouchement, même si la grossesse n'est pas menée à terme, ces cellules persistent, parfois pendant toute la durée de la vie d'une femme. Une mère et son enfant sont ainsi imbriqués, l'un dans l'autre, de manière inextricable. On n'est pas rien, c'est de la biologie. Savez-vous comment les scientifiques nomment ces cellules? Les cellules chimériques. Comme la chimère, le monstre des mythes. Un être composite constitué de membres d'animaux différents. La tête d'un lion, le corps d'une chèvre, la queue d'un serpent. Alors, mesdames et messieurs les jurés, je me dis que nous, les femmes, nous sommes toutes des chimères. Nous porterons en nous la trace de nos mères et de nos filles, qui à leur tour porteront la nôtre. C'est une chaîne infinie. Nous sommes quelque part toutes des monstres, mais des monstres terriblement humains.
Avant de finir, je voudrais noter le jeu d'actrice absolument époustouflant de Guslaji Malanda, jouant Laurence, tout en dignité et finesse, sublimant à la perfection la complexité de son personnage. Je vous encourage vivement à voir ce film, disponible à la location à la médiathèque du Marsan. Et je vous laisse avec Little Girl Blue de la grande Nina Simone pour notre pause musicale.
To cheer up
C'était Little Girl Blue de Nina Simone, et nous arrivons à la fin de cette émission consacrée au cinéma par les femmes. Le dernier film que j'aimerais vous présenter est Beau Travail de Claire Denis. Sorti en 1999, dans ce film étrange et sensoriel, nous suivons Galou, joué par l'excellent Denis Lavant, un adjudant-chef de la Légion étrangère à Djibouti, ayant une admiration folle pour son chef, le commandant forestier, joué par Michel Subor. Or, lorsque de nouveaux légionnaires se présentent pour relever les anciens, un d'entre eux, Santin, interprété par Grégoire Collin, est pris dans les bonnes grâces de Forestier, et Galou devient follement jaloux de ce dernier, cherchant à tout prix à le mettre hors du tableau. Pourtant, l'originalité de ce film, c'est que nous voyons peu l'intrigue se développer au cours de ce dernier, Claire Denis préférant filmer les soldats dans leurs tâches quotidiennes, la lessive, le repassage millimétré de leurs chemises, creuser des trous où on leur dit de le faire, même si cela n'a aucun sens, et la pratique du sport. La réalisatrice, ayant conscience de la beauté des corps qu'elle filme, muscles saillants, sueur abondante et torse glabre, on sent pointer une forme d'érotisme entre ces hommes.
Merci, légionnaire. Tu as quel âge ?
22 ans.
Tu t'entends bien avec tes parents ?
J'ai pas de mère, ni de père.
Alors tu ne sais rien de tes origines ?
Non, mon commandant. J'ai été trouvé dans une cage d'escalier.
Trouvé ? Oh, merde alors. Ah, au moins, ça a été une belle trouvaille.
Plus le film avance, plus les entraînements et le terrain deviennent abstraits. Dans une enclave rocheuse, presque volcanique, nous voyons ces légionnaires s'entraîner à s'enlacer, s'étirer de façon abstraite. La troupe militaire devient troupe de danse contemporaine, exécutant chaque tâche, même la plus absurde, sans jamais poser de questions, étant presque reléguée au simple stade d'animaux humains par la réalisatrice. Beau Travail est le film le plus abstrait et le plus difficile à regarder de cette sélection, selon moi. Mais reste néanmoins très intéressant, notamment sur comment les corps sont filmés, à la fois avec désir et curiosité. Je vous encourage vivement à le regarder, d'autant plus que ce film est disponible à la location à la médiathèque du Marsan. Avant de vous laisser avec Rhythm of the Night de Corona, chanson qui clôt le film avec une superbe danse de Denis Lavant, j'aimerais vous dire que les 4 femmes cinéastes citées aujourd'hui ne sont pas une fin en soi. Je vous conseille grandement de regarder les travaux d'autres réalisatrices, comme Jeanne Campion et son film La Leçon de Piano, Justine Trier avec son chef-d'œuvre Anatomie d'une Chute, Catherine Bigelow, réalisatrice des superbes Détroit et Zero Dark Thirty, un film mettant en scène l'agente de la CIA qui a trouvé Ben Laden après 11 ans de traque, Phoebe Waller-Bridge, réalisatrice de la superbe série Fleabag, racontant le quotidien d'une Anglaise dans la trentaine. C'est très drôle et très touchant. Chantal Ackerman aussi, dont vous avez une rétrospective sur elle sur Arte Cinéma. Je peux aussi vous citer Audrey Diwan et son excellent film L'Événement, mais aussi Louise Courvoisier, qui a récemment sorti son tout premier film, Vingt Dieux, une perle de naturalisme, un super film que je vous conseille grandement de regarder. Et bien entendu, la mère de la nouvelle vague, l'immense et regrettée Agnès Varda. Voilà pour cette émission consacrée au cinéma par les femmes. Je vous dis au revoir et bonne séance.
putain, moteur!